Et le journal vous est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. 2 ans de prison ferme pour François Fillon, condamné pour l'emploi fictif de son épouse Pénélope, elle aussi sanctionnée par la justice. Les époux Fillon font appel du jugement. Les explications d'Antoine Marette dans un instant. Emmanuel Macron écarte 3 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Il ne veut pas de la limitation à 110 km/h sur autoroute, tout en affichant son ambition écologique. Dans ce journal, nous reviendrons sur le 2e tour des municipales. À Marseille, la gauche emmenée par les écologistes est arrivée en tête, mais le vote par secteur pourrait permettre à la droite de garder la mairie. Nous irons aussi à Moissac, petite ville de 13 000 habitants conquise par le Rassemblement National. Enfin, avec Pierre Neveu, nous reviendrons sur la chute de plusieurs bastions communistes, notamment en Île-de-France. La justice a donc rendu un premier jugement dans l'affaire Fillon et il est implacable pour l'ancien Premier ministre et sa femme. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné François Fillon à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. Son épouse Pénélope s'est vue infliger 3 ans de prison avec sursis. Même peine pour le suppléant Marc Joulot. Le tribunal a estimé qu'il y avait bien eu des emplois fictifs dans cette affaire. Il n'a pas accédé à la demande de la défense qui voulait rouvrir les débats après les déclarations fracassante d'Eliane Houlette. Le 10 juin dernier, l'ancienne patronne du parquet national financier avait évoqué les pressions qu'elle aurait subies dans la conduite de l'enquête sur les époux Fillon. Antoine Marette.
Les peines prononcées sont équivalentes et même supérieures dans le cas de Marc Joulot aux très féroces réquisitions. 2 ans de prison ferme pour François Fillon. Les magistrats pointent les manquements de l'ancien Premier ministre à ses devoirs de probité et d'exemplarité. Il est reconnu coupable de détournement de fonds publics et complicité et recel d'abus de biens sociaux. Sa peine est assortie de 375 000 euros d'amende et de 10 ans d'inéligibilité. Son avocat, maître Antonin Lévy, annonce aussitôt que son client va faire appel.
Il y aura un nouveau procès. Nous allons donc nous retrouver en appel face au parquet général. Et nous allons enfin, et j'espère avec tous les éléments qui manquent au dossier, avec les instructions individuelles qui n'ont jamais été versées, avec les rapports fantômes qui n'ont jamais été communiqués, avec ces réunions d'arrière-boutique à laquelle la défense n'a jamais été conviée, peut-être qu'en possession de tous ces éléments, qu'il est temps que la justice verse au débat, on pourra enfin avoir un débat complet et serein et permettre enfin à la justice d'être rendue.
Pour le tribunal, les contrats d'assistante parlementaire de Pénélope Fillon n'avaient aucune consistance et ne répondaient à aucun besoin. Elle écope de 3 ans avec sursis, 375 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. De son côté, Marc Joulot est condamné à 3 ans avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité.
Antoine Marette, merci. Avant François Fillon, 3 autres anciens premiers ministres de la 5e République avaient été condamnés par la justice, Jacques Chirac, Alain Juppé et Édith Cresson. Le temps est à l'action, a déclaré ce matin Emmanuel Macron devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le président qui a sans doute ajusté son discours pour tenir compte de la vague verte aux municipales. Parmi les annonces, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans pour la conversion écologique de l'économie ou encore un moratoire sur les nouvelles zones commerciales en périphérie des villes. Un projet de loi verra le jour à la fin de l'été. Il rassemblera les propositions de la Convention ou presque toutes les propositions, car le président, Laura Dulieu, s'est bien gardé de valider l'ensemble des propositions des citoyens.
Oui, 3 jokers parmi les 149 propositions. Emmanuel Macron ne retient pas celle de taxer à 4% les dividendes des entreprises privées pour financer la transition écologique. Selon le président, cela risque de refroidir les investisseurs. Il promet à la place de réfléchir à une fiscalité plus incitative pour l'environnement. Second refus d'Emmanuel Macron, les fameux 110 km/h sur l'autoroute. Le souvenir de la fronde contre les 80 km/h est encore vif pour le chef de l'État qui explique avoir, je cite, présenté beaucoup de grands plans qui ont parfois été résumés à une mesure ou une petite phrase et ce serait injuste que votre travail soit résumé à cette mesure. Enfin, le troisième nom, c'est à propos de l'introduction de la protection de l'environnement dans le préambule de la Constitution, une proposition problématique selon le chef de l'État.
Tel que proposé, la rédaction pour le préambule menace de placer la protection de l'environnement au-dessus des libertés publiques. Il est essentiel de le mettre au bon niveau, mais de ne pas mettre un droit de la nature au-dessus des droits humains. Par contre, vous proposez la réécriture de l'article 1er de notre Constitution, Et vous proposez d'introduire les notions de biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique dans notre texte fondamental.
Voilà, Emmanuel Macron favorable à la réécriture non pas du préambule mais du premier article de la Constitution. Ça fera l'objet d'un référendum d'ici fin 2021 et ce pourrait bien ne pas être le seul. Le chef de l'État s'est dit favorable au référendum sur un ou plusieurs textes de loi reprenant les 146 autres propositions de la Convention.
Laura Dulieu, merci. Revenons à présent sur les leçons du deuxième tour des municipales, marqué par le triomphe des écologistes et l'échec de La République en marche. Les Verts dirigeront plusieurs grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon ou Tours et la liste est loin d'être exhaustive. À Marseille, en revanche, leur victoire n'est pas certaine. Le printemps marseillais, conduite par l'écologiste Michel Rubirola, devance de 8 points les Républicains de Martine Vassal. Mais le système électoral en vigueur à Marseille complique les choses. Un vote par secteur mise en place en 1983 par Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur et maire de Marseille. Malgré une avance de 2500 voix, Jean-Claude Gaudin avait alors perdu la mairie après le vote des conseillers municipaux. Ce scénario, Olivier Martoc, pourrait se répéter cette année au détriment du printemps marseillais.
Sur l'ensemble de la ville, la gauche devance la droite de 13 000 voix. En nombre de secteurs, elle est aussi devant, 5 contre 3. Sur les 5 conseillers municipaux qui vont élire le maire de Marseille, ce sera finalement samedi, 50 sont étiquetés de gauche, 42 LR, 9 Rassemblement National. Là où tout se complique, c'est qu'il y a des conflits de personnes. À gauche, le printemps marseillais a combattu au second tour la sénatrice PS des quartiers nord Samia Ghali en maintenant sa liste conduite par un communiste alors que Ghali était dans une triangulaire difficile face au Rassemblement National. Samia Ghali pourrait faire payer très cher ce qu'elle a qualifié de traîtrise en privant le printemps marseillais du vote de ses 8 colistiers. À droite, paradoxalement, l'équation est plus simple car Martine Vassal a perdu dans le fief où depuis 1995, Jean-Claude Gaudin se faisait élire dès le premier tour. Le républicain dissident Bruno Gilles pourrait voter pour son camp s'il change sa tête de liste samedi. Au troisième tour qui se jouera à la majorité relative, les candidats ne seront donc probablement pas Michel Rubirola et Martine Vassal. On sera alors loin, très loin du choix des Marseillais, ce qui pose quand même un problème évident à la démocratie.
Olivier Martoc, depuis le bureau de Radio France à Marseille. Du côté du Rassemblement National, le bilan de ces municipales est mitigé. À Marseille, justement, Stéphane Ravier a perdu sa mairie de secteur. Le RN a également été battu dans deux de ses fiefs, Mantes-la-Ville dans les Yvelines et le Luc dans le Var. En revanche, le parti de Marine Le Pen triomphe à Perpignan avec Louis Alliot. Il s'impose également à Bruyères-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Le RN gagne aussi la petite ville de Moissac, 13 000 habitants dans le Tarn-et-Garonne. Le nouveau maire s'appelle Romain Lopez, il a 31 ans et c'est l'ancien assistant parlementaire de Marion Maréchal. Le reportage à Moissac de Stéphane Iglesis.
Pour la ville de Moissac, il y a trois choses importantes. Le raisin Chasselas, le cloître moyenâgeux et la communauté bulgare qui fait débat. Christian résume l'état d'esprit des électeurs du maire élu.
Ces gens-là nous mangent la vie. Ils polluent toute la ville. Il y en a beaucoup qui travaillent à la campagne, mais il y en a beaucoup qui foutent rien. Vous voyez là le dimanche matin, vous êtes venu le dimanche matin, sur 10 personnes, vous en avez 7 ou 8, c'est la Bulgarie quoi.
Cette Moissagaise rappelle que cette région agricole a toujours eu besoin d'une main d'œuvre étrangère.
On dirait que les Moissagais découvrent qu'il faut des bras pour ramasser des fruits. Alors les mêmes agriculteurs qui embauchent la main d'œuvre sont mécontents de leur présence. Alors ils doivent cesser de respirer une fois qu'ils ont fini de ramasser la dernière poire. Il faut faire de la place pour nous, pour les nouveaux, c'est la jeunesse. C'est les animaux les plus dynamiques de leur pays. On a déjà connu ça, Moissac, depuis toujours.
Quant à Romain Lopez, le maire élu, il tient une ligne proche de Robert Ménard à Béziers, le rassemblement des droites et même des électeurs de gauche.
La fiscalité, le chômage, le problème du tourisme, le service public est la première vitrine de Moissac. Nous avons besoin de le choyer, de l'écouter.
Il lui reste maintenant à faire mieux que ses prédécesseurs en matière de développement économique, de dynamisme commercial et de maintien de la paix publique.
Stéphane Iglesis à Moissac. Un autre enseignement de ces municipales, c'est la chute de plusieurs bastions communistes, Arles et Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi des villes emblématiques de l'ancienne ceinture rouge de la région parisienne. Pierre Neveu.
Saint-Denis est tombé, c'était une ville communiste depuis la libération. comme Champigny-sur-Marne, le fief de Georges Marché, Aubervilliers, Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi. Autant de villes perdues par le Parti communiste, ces villes qui formaient ce que l'on appelle la ceinture rouge en Ile-de-France. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, reconnaît ses défaites, mais il se félicite d'avoir gardé Ivry-sur-Seine, repris Bobigny et conquis Villejuif.
Je reconnais qu'il y a eu des pertes, mais je vous dis aussi qu'il y a eu des victoires. En Seine-Saint-Denis, nous perdons deux villes, comme Saint-Denis-Aubervilliers, mais nous en gagnons quatre autres qui sont tout aussi importantes. Il y a aussi des victoires auxquelles nous avons fortement contribué dans les grandes villes. Je pense à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Nancy, à Poitiers, où ce n'étaient pas des têtes de liste communistes, mais où les communistes sont présents dans la liste, seront demain élus dans ces majorités pour faire gagner des politiques de solidarité, des politiques écologiques. Et ça, c'est aussi important. C'est beaucoup de points d'appui supplémentaires où les communistes seront présents.
Dans ce bilan, il faut rappeler que des maires communistes avaient été réélus dès le premier tour, comme à Dieppe, Martigues, Montreuil, Bagneux et Malakoff. Mais scrutin après scrutin, on constate que le Parti communiste perd du terrain du fait de la transformation des quartiers populaires. Alors pour garder un ancrage territorial, le PCF a dû passer des alliances avec ses partenaires historiques, qu'il soit socialiste, écologiste et plus localement avec des insoumis.
Pierre Neveu, merci et retrouvez sur franceculture.fr un dossier complet sur ce deuxième tour des élections municipales. Après la Convention citoyenne pour le climat, ce matin à Paris, Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Berlin. Il rencontre Angela Merkel à l'aube de la présidence allemande de l'Union européenne. Présidence qui intervient dans un paysage européen bouleversé par la pandémie et la récession économique qu'elle provoque. Nous retrouvons à Berlin notre correspondant Ludovic Piétenu. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ludovic, l'Allemagne et la France sont à nouveau en première ligne pour tenter de renforcer la construction européenne.
Oui, le duo fonctionne, il fonctionne encore mieux qu'avant. La crise du coronavirus a eu ce site positif qu'elle a secoué les dirigeants européens. Ça a été un moment très profitable pour Angela Merkel aussi, puisqu'elle a retrouvé une très grande popularité. C'est moins le cas du côté du président français, surtout après la sale soirée d'hier. Du positif donc à ceci près qu'il était plus difficile de se voir, de se réunir. Vous vous souvenez quand cette initiative franco-allemande sur ce plan de relance européen a été présentée, c'était le 18 mai, on avait eu droit à une conférence d'un genre inédit, l'une à Berlin, l'autre à Paris. Là, enfin, si j'ose dire, Emmanuel Macron et Angela Merkel peuvent se revoir, passer plusieurs heures ensemble, proches l'un de l'autre. Ça va d'ailleurs s'étirer un peu tard jusqu'au dîner ce soir où ils vont brasser ensemble beaucoup de sujets. Mais deux questions majeures, évidemment, dominent le plan de relance européen et le budget, ça va avec le budget européen pour les sept années qui viennent. Cette rencontre est vraiment donc l'occasion de préparer très longuement ces négociations à venir entre Européens. Ce sera mi-juillet, ça s'annonce difficile, intense, mais un accord est possible. Sur cela, le couple franco-allemand parle le même langage, unit ses forces et affiche son volontarisme et son optimisme.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. Sur la carte de la pandémie de Covid-19, l'Iran est désormais l'un des principaux points noirs. Le pays a annoncé aujourd'hui un record de décès quotidiens, 162 morts selon les chiffres officiels. Le nouveau coronavirus a déjà fait 10 670 victimes en Iran et ce bilan ne correspond pas forcément à la réalité. Le régime des Mollahs est soupçonné de masquer les vrais chiffres de la pandémie, Christian Chéneau.
Face à une épidémie qui reprend de plus belle, la République islamique se remobilise. Après une flambée mal maîtrisée, les autorités avaient semblé reprendre le contrôle de la situation sanitaire, même si elles n'ont jamais imposé un confinement total. Mais pour ranimer une économie déjà durement frappée par les sanctions américaines, les restrictions ont été progressivement levées. Résultat immédiat, la courbe des contaminations est repartie en flèche avec aujourd'hui plus de 225 000 cas officiellement recensés dans le pays et près de 11 000 morts. Les autorités iraniennes sont donc aujourd'hui contraintes de resserrer les mesures sanitaires. Ainsi, à partir du 4 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les espaces couverts où il y a des regroupements. Dans plusieurs régions classées rouges, les restrictions concerneront les salles de mariage et les funérailles organisées dans les mosquées. Le ministère iranien de la Santé a lancé une campagne nationale « Je porte un masque » pour inciter la population à respecter les protocoles sanitaires. Le guide suprême Ali Khamenei a déploré le relâchement des Iraniens, mais surtout, il a mis en garde contre une dégradation encore plus grande de la situation économique et sociale si d'aventure l'épidémie n'était pas rapidement maîtrisée.
Christian Chéneau, merci. Retour en France avec cette dernière information sur la fin de la centrale nucléaire de Fessenheim. La procédure d'arrêt du second réacteur de la centrale a débuté tout à l'heure à 16h30 avec quelques heures d'avance par rapport à l'horaire prévu. Le début de cette procédure était initialement envisagé à 23h30 pour un débranchement du réseau électrique vers 2h du matin. Ce second réacteur va finalement ralentir progressivement pour être débranché dès ce soir vers 23h30. Le premier réacteur de Fessenheim avait été arrêté dès le 22 février dernier. Un mot du temps demain. Le ciel se couvre par le nord-ouest. Il pleuvra faiblement sur la moitié nord. Au sud, le soleil s'imposera, sauf sur les Pyrénées où le temps sera orageux. Température minimale comprise entre 10 et 21 degrés. Du nord à la Méditerranée. Les maximales iront de 18 à 35 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.